Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Alléluia. J'aimerais nous demander de nous lever un moment. Nous allons chanter juste quelques strophes, même les refrains. Et ces vieux cantiques d'autrefois, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Jésus de Kunabouli. J'aimerais que tu les chantes comme une confession. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons avoir dépend de notre amitié avec les crucifiés. Si à ta liwa,
soit ta passe à ta liwa, le poids à la terre, qui la.
Chantons cette strophe en français. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami.
Quel ami fidèle et tendre.
Nous avons en Jésus-Christ.
Nous avons en Jésus-Christ.
Ah, nous avons un ami. Nous avons un ami qui s'appelle Jésus-Christ. Bénissons toi, notre ami fidèle. Nous t'avons pas choisi, mais tu nous as choisi. Et ce matin, avant d'écouter ta parole, nous voulons t'offrir cette offrande d'acclamation pour te dire merci pour ton amitié. Et amis fidèles, ami fidèle, bénis ta parole ce matin. Qu'elle soit esprit et vie pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. L'amitié de Jésus-Christ. Voilà la chose qui compte. La chose la plus importante. J'aimerais nous demander de lire. En fait, c'est une relecture. Les trois portions des Écritures que nous avons lues les dimanches passés et qui nous ont aidés à introduire notre thème sur les combats spirituels. Une réalité. Alors nous allons relire ces trois portions des Écritures. D'abord, Nombre chapitre 22, du 1er au 6e verset. Et nous lirons aussi du 16e au 17e. Nombre chapitre 22, versets 1 à 6, versets 16 à 17. J'aimerais poser la question comme à l'école. Vous y êtes? Voilà. Comme ces jeunes hommes, vous vous souvenez? On a dit, vous y êtes? Il a dit, oui, pasteur, nous y êtes. Tout à l'heure, quand le pasteur a dit que Sangani Asuka, il a dit toutes les lettres étaient là, mais renversées. Ça m'a rappelé un prédicateur américain qui devait aller prêcher à Kisantu. Et vous savez, ces gens, quand ils arrivent, ils aiment toujours avoir un contact avec l'auditoire. Et il s'est renseigné comment on salue les gens à Kikongo. Lui, on lui dit, batata, bamama, bote. Batata, bamama, bote. Il s'est mis à répéter pour ne pas manquer. Et dès qu'il arrive, on lui passe le micro, il dit, batata, bamote, mama. Et les gens ont crié, lui pensait qu'ils étaient contents, il a repris encore. Batata, bambote, mama. Comme quoi, l'ordre peut tout faire. Hein? Nombre, je disais, chapitre 22, du 1er au 6e, et puis du 16e au 17e. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain. Et c'est là vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Nous n'avons aucune idée combien nos ennemis sont au courant de ce que nous faisons. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être, ainsi pourrai-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Verset 16 à 17, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, qu'il ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Nous ajoutons Nombre, chapitre 22, premier au deuxième, 7 à 13 et 23, comme seconde portion. 1 à 2, 7 à 13 et puis 23. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau à un bélier sur chaque autel. Ça, c'est les versets 1 et 2 du chapitre 23. Et les versets 7 maintenant. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram. Les rois de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. » Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Ah, j'aime la suite. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire les nombres du quart d'Israël. Que je meurs de la mort des justes. Il s'est mis à envier leur mort. Et que ma fin soit semblable à la leur, fantastique. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu les verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-les-moi. Verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Puis enfin, la dernière portion, du moins pour introduire, Nombre toujours, chapitre 24, les premiers versets. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Ah, ce qui compte, c'est ce que l'Éternel trouve bon par rapport à nous. Non pas ce que les hommes pensent, non pas ce que les hommes souhaitent. Et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements mais il tourna son visage du côté du désert. Alléluia. La fois dernière, nous avons introduit cet enseignement, les combats spirituels et une réalité. Et parlant des combats, nous avons dit, il y a rencontre, donc c'est dans des coups, on utilise des armes, et le but qui est caché derrière, c'est soumettre l'autre. Et en introduisant, nous avons mentionné certaines choses, j'aimerais répondre quelques des principes que nous avons eu à mentionner. Le premier des principes, nous avons dit que tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. C'est pas parce que nous ne voyons pas certaines choses que ces choses ne sont pas présentes. Et je l'ai dit et j'aimerais le répéter, il y a des atomes qui sont en train de se rencontrer ici, qui sont en train de se défaire. Mais nous ne voyons rien. La photosynthèse est en train de se passer là. Les choses sont en train de partir. Il y a l'évaporation qui se passe et qui reviendra peut-être sous forme de pluie, si pluie doit y encore avoir. Mais c'est pas parce que nous ne voyons pas cela que rien n'est moins présent. Il y a des ondes magnétiques. Tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Et deuxièmement, nous avons ajouté qu'il y avait aussi un monde spirituel. Il y avait des réalités spirituelles. Tout n'est pas physique. Il y a des choses spirituelles. Des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Quand vous allez dans quelques groupes mystiques, on vous montrera, on vous expliquera des gens qui ont la capacité simplement en se concentrant de faire déplacer des tables. Non pas qu'il tient ça à la main. Il peut faire bouger des choses. Des forces spirituelles existent. J'ai connu un ami qui a été longtemps dans un groupe mystique, longtemps. Et il s'est converti, j'ai toujours bonne mémoire, en 87. Et quand il s'est converti, il m'a relaté une histoire. Ils habitaient quelques immeubles et lui, il était au 8e étage. Il faisait la cour. Longtemps, une jeune fille qui était au rez-de-chaussée, et cette jeune fille résistait. Il m'a dit, entre guillemets, j'allais travailler au laboratoire. Et il m'a parlé des pratiques qu'ils font dans leur domaine. Il dit, j'ai utilisé ce qu'on appelle l'autosuggestion. Je me concentre et je l'appelle. Viens. Viens chez moi. Et elle, là où elle est, dit, c'est maintenant qu'elle pose ça avec le retard à André. Hein? Elle a l'impression que c'est elle qui a décidé. Mais c'est quelqu'un de spirituellement fort. Quelqu'un qui a certaines capacités qui l'oblige à agir d'une certaine manière. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, cela ne peut pas nous arriver. Et cela me permet de dire la troisième chose que nous avons eu à mentionner, c'est que les spirituels influencent les physiques. Et nous avons cité ce passage où il est question de Moïse qui levait ses mains. Et quand ses mains étaient levées, il y avait victoire sur le champ de bataille. Nous avons encore mentionné l'exemple de Goliath, tout fort qu'il était physiquement. Son corps travaillé par la culture physique, biceps et triceps, travaillé. Conscient qu'il a une force physique, mais au-delà de la force physique, avant d'aller combattre David, la Bible dit, il est maudit par ses dieux. Il croit à la force physique. Mais il croit aussi qu'au-delà du physique, il y a quelque chose. Et les trois portions des Écritures que nous avons lues nous aident à comprendre que le combat spirituel est une réalité. Écrivant aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. » Dans le texte original en grec, il est dit, « Car nous n'avons pas à lutter seulement. » C'est-à-dire nos combats ne sont pas seulement physiques. Quelquefois, et même le plus souvent, ils sont d'abord spirituels. Et j'aimerais dire, quand vous êtes fort dans les spirituels, vous êtes aussi fort dans les physiques. Quand vous dominez spirituellement, vous dominez aussi physiquement. Qui êtes-vous spirituellement? Qu'est-ce que vous avez? Ah, vous me voyez seul, mais j'ai un allié derrière moi. Un allié fort, fort. Tout dépend avec qui vous êtes allié. Si votre allié c'est mort, vous êtes à un bas niveau. Israël, quelquefois, ne tremble pas, même malgré tout ce qu'il a comme voisin, à cause de celui qu'il a comme allié. Il sait qu'il y a Dieu, mais il sait aussi qu'il y a les États-Unis. Ah, Seigneur, je m'appuie sur un allié qui a un palmarès sans défaite. Quand vous avez un allié fort, l'ennemi ne peut rien vous faire. Des fois, il peut vous menacer, mais à distance. Mais il ne peut rien vous faire. Avec qui vous marchez? Je vous ai relaté cette histoire ici. J'aimerais encore la relater aujourd'hui. Moi, j'ai grandi à l'époque où il y avait des termes mitifs. Ça a disparu, hein. Bakangio mitif. Kolekambalabalote. Moi, je suis de la vieille époque où quand on était fort, son nom devait se terminer par os. Kingos, Gototos, Galokos, Bojos. Les os, là, ça signifie rien pour ceux de la génération actuelle. J'aimerais même pas vous dire comment on m'appelait quand j'étais petit, n'imaginez même pas. Mais il y avait un os aussi à la fin. Et un jour, j'ai eu un problème, j'habitais à Bandal, sur Zobé, avec quelqu'un qui était sur Chiloang. Un monsieur fort. Tout en lui était travaillé par la culture physique, même les lèvres, on sentait la force. On était tout petits avec des jambes comme des jeunes filles, toutes lisses. Lui était velu. Et des fois, quand il voulait vous montrer sa force, il faisait simplement bouger une jambe. Il vous disait, ah, Ibilaï, Naéban, Ibilaï, ça vous dit quelque chose? Et durant très longtemps, sur leur avenue, c'était le seul endroit où on veut aller acheter de la boisson sucrée. Mais j'avais un problème, j'étais personne non grata. Et mon père était chaque fois étonné. La distance à l'aller comme retour, ça devait faire 5-6 minutes. Et chaque fois, je revenais après 15-20 minutes. Mais Roland, c'est si proche, je ne pouvais pas tout lui dire. J'avais des problèmes avec quelqu'un. J'étais wanted là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père, allez, prends la bouteille, on va aller acheter la boisson. Aïe, 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 j'ai dit, aïe, aïe, mambo m'a sobele. Je voulais l'amener ailleurs, mais je disais, si je l'amène ailleurs, il faudra. Et puis, je suis rentré sur l'avenue. Du reste, la personne était étonnée de me voir. Il m'a vu de loin. Il a voulu s'avancer. Il n'avait pas vu la suite. Il y avait quelqu'un qui était à mes côtés. Et je peux vous dire, j'avançais à tremblant. Mais je le voyais au loin, il me faisait seulement comme ça. Petit. Comme pour dire, il faut pas prendre un seul à quitter. J'aimerais vous dire, nous sommes avec quelqu'un. J'ai un allié avec moi. Un allié fort. Un allié fort. Fort, 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 très très fort. Et parce que Kali m'a dit une chose, il dit quand il est venu du Katanga en 80, vers les années 80, il était étonné. Qu'à Kinshasa, les hommes se chamaillaient. Parce qu'au Katanga, les hommes ne se chamaillent pas. Deux, trois paroles et puis pim! Mais les Kino avant la bataille, il te donne son palmarès. Oh, Sakanangai! Oh, il y a un peu de hein? Coup de tête, on appelle ça Kingolos. Ah, mais mieux que cela, nous avons un allié au palmarès fort. Avec victoire sur victoire sur victoire. Dis à ton voisin, il est digne de confiance. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout au long de cet enseignement, nous allons montrer que les gens avec lesquels nous combattons, ils sont organisés. C'est pas désordonné. On avait dit des dominations, des principautés, toute une organisation que des fois nous ne voyons pas, mais qui est bien réelle. Et les récits d'Israël qui est en route vers la terre promise. Ils ont parcouru les trois quarts du chemin. Et bientôt là, ils vont franchir les Jourdains, ils vont prendre Jéricho et ils vont entrer dans Canaan. Ils ont fait pratiquement tous les chemins. Et ces récits nous enseignent plusieurs choses. Plusieurs choses nous avons commencé à voir, certaines, et nous avons la séance dernière mentionné l'une des choses que ces récits nous enseignaient. La première, c'est que nous avons une réputation. Une réputation qui quelquefois nous échappe. Des fois, nous n'avons aucune idée de ce que les gens savent nous concernant. La Bible dit dans Nombre, chapitre 22, verset 2 à 4 et puis verset 6. Balak vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Ah, j'aime le verset 3. Et Moab fut très effrayé. Non seulement effrayé, mais très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et la Bible dit, il fut saisi des terreurs en face des enfants d'Israël. Deux termes attachés aux sortes de craintes sont utilisés. Effrayés et puis terreur. Ils étaient effrayés, c'est-à-dire ils éprouvaient une peur passagère mais intense. Et cette crainte passagère et intense
Celui qui l'a au-dedans a des appréhensions. Il s'attend à des choses négatives. Mais deuxièmement, non seulement qu'ils étaient effrayés, la Bible dit, ils furent saisis de terreur. Terreur, peur violente et incontrôlée qui s'impose à un groupe de gens. Terreur, c'est aussi panique, donc affolement. On perd les contrôles. N'avons aucune des camps d'ennemis qui des fois connaissent mieux ce que nous sommes, sont au courant des aptitudes qui sont les nôtres, des forces qui sont les nôtres. Moab fut très effrayé. Ils ont perdu contrôle. Mais ce qui m'étonne, ils sont effrayés à cause de quelqu'un qui ne sait pas que les gens sont effrayés à cause de lui. Et le verset suivant dit, Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure. Il s'imagine lui-même non seulement la défaite, mais il s'imagine l'ampleur de la défaite. Ils sont tellement forts qu'ils vont nous écraser comme le bœuf écrase la verdure. Et au verset 6, il dit, viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, il va plus loin, car il est plus puissant que moi. Il fait les rapports de force et il sait, Seigneur, aide-moi à savoir la réputation que j'ai. Ah, c'est pour cela, en terminant l'autre fois, j'avais mentionné cette parole que Dieu m'avait dit concernant quelqu'un. Dieu a dit à Jérémie de dire à son peuple, ne tremble pas devant eux. Dieu dit, si tu trembles, moi je te ferai trembler. Comment les gens qui ont une réputation te concernant, qui savent qui tu es, les forces que tu as, et toi tu te mets à trembler devant eux. Vous savez, le plus souvent, j'ai eu à voir, et dans la Bible, et dans la vie tout court, lorsque quelqu'un a peur de nous, lorsque quelqu'un sait que dans les rapports de force, nous sommes plus forts, il fait souvent deux choses. La première, il cherche d'abord à nous intimider. En général, celui qui a peur fait peur. Vous verrez une famille, ils ont peur d'être attaqués. Ils vont mettre un écriteau devant la maison. Chien méchant. En fait, il n'y a pas un chien méchant. Ils ont tellement peur d'être attaqués qu'ils veulent dire « Kebaroko Tawade ». Ce qu'ils veulent dire par ça, n'entrez pas. Ne vous laissez pas intimider. Il cherchera à vous intimider. Il cherchera à mettre en œuvre des menaces pour créer la crainte ou l'appréhension. Seigneur, je ne m'aimerais pas trembler devant celui qui tremble devant moi. Si vous voulez savoir jusqu'où vos ennemis ont peur de vous, voyez la quantité et la qualité des menaces qu'ils vous font. Plus ils vous menacent beaucoup et souvent, plus en filigrane, ça veut dire qu'ils ont peur de vous. Ils n'osent pas les montrer en public. Ils connaissent votre force de frappe. Et la deuxième chose qu'ils font quand ils ont suffisamment peur de nous, ils cherchent à nous minimiser. Ils cherchent à dire que nous sommes rien. Quand ils insistent trop, c'est qu'ils ont plus peur. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais moi, je n'ai rien dit. Ils pensent qu'il va gagner. Moi, je n'ai rien dit. C'est vous-même qui avez peur et tellement peur que vous commencez à faire des projections. Seigneur, aide-moi à savoir qu'il y a une réputation qui s'attache à ma personne. La deuxième des choses que ce récit nous enseigne, c'est que nos ennemis sont actifs. La crainte qu'ils ont nous concernant les rend très actifs. Actifs intellectuellement, actifs matériellement et des fois actifs financièrement. Nous n'avons aucune idée des réunions qui se tiennent, des heures supplémentaires, des bureaux d'études loin de nos regards, simplement comme pour but nous faire chuter, nous faire tomber. Alors qu'Israël dort dans ses tentes, Balak et Balaam sont en train de réfléchir. Balak réfléchit, que faire pour écraser ce peuple? J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas conscient que certaines choses se passent, mais ce n'est pas parce que vous êtes moins conscient que des choses ne se passent pas. Des fois, nous dormons tranquillement, alors que dans le monde des ténèbres, il y a réunion sur réunion. Les gens sont prêts à faire des heures supplémentaires. J'aimerais vous dire, le diable ne vous aime pas. Il est contre votre promotion. Il est contre votre quiétude. Il est contre votre tranquillité. Il en veut à cette stabilité que vous avez dans votre vie. Il en veut à cette stabilité que vous avez dans votre vie de couple. Il en veut à cette harmonie. Et il est prêt à tout, au travers de ses agents, pour vous écraser. Nombre 22, versets 5 à 6 et 17, nous donne trois éléments importants. Premièrement, il est dit, Balaam envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétro, sur le fleuve dans les pays de son peuple. Très long voyage, minimum 25 jours. Mais il est prêt à financer ce voyage. Pourvu qu'on aille nous chercher quelqu'un. Nous n'avons aucune idée. Israël, tu dors? Mais Balak est en train d'envoyer des gens quelque part. Il est en train de réfléchir comment faire pour l'écraser. Balaam habite au bord du fleuve Euphrate. Comme je disais, il faut entre 25 et 30 jours. Ce sont les moyens de l'époque pour qu'on arrive jusqu'où il est. Mais n'empêche, Balak est prêt à mettre ses moyens. La deuxième des choses qui nous est montrée, le verset 6 nous montre les moyens que Balak était prêt à utiliser. Remarquez qu'il n'achète pas d'abord des armes. Remarquez qu'il ne va pas d'abord louer des mercenaires. Remarquez qu'il ne cherche pas d'abord à équiper son armée. Il cherche d'abord le spirituel. Il envoie, il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Et écoutez ce qu'il dit, peut-être aurais-je la possibilité de les battre. Et pourrais-je les chasser du pays? Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Il sait qu'il finira par descendre sur le champ de bataille. Il sait qu'il finira par rentrer, mais il cherche d'abord un équipement spirituel. Il cherche les devins les plus forts de l'époque. Il semble qu'à cette époque, Balaam avait une réputation internationale. Alors, on compte dans ces pays, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, des politiques qui étaient prêts à envoyer des avions spéciaux à Dakar, au Mali, pour aller chercher des gens, faire des choses. J'ai un jour parlé avec un homme, un politique, qui a fini par se convertir, qui m'a dit simplement, pour avoir de l'encendant sur les autres, on a dû lui donner un cadavre avec lequel il a passé deux nuits sur un même lit. Ah, vous n'avez aucune idée de tout ce que les gens sont prêts à faire. Long voyage. Mais comme j'ai dit, on ne cherche pas n'importe qui. On va chercher une arme fatale. Dans Josué chapitre 13 au verset 22, la Bible nous montre qui était réellement Balaam. Quand nous lisons, on les présente comme prophète. Prophète en araméen ou en hébreu, ça veut dire nabi, porte-parole de Dieu. Mais lui n'était pas un nabi. Il était un causé, un magicien, un devin, un sorcier. Quand on essaie de lire les récits, apparemment c'est comme s'il connaissait un peu Dieu, mais il ne connaissait pas réellement Dieu. Quand nous voyons tout ce qu'il faisait comme travail, il exigeait un salaire à la fin. Un devin réputé. Comme je dis, il avait une réputation internationale. Si vous devez savoir jusqu'où vous faites peur à votre ennemi, voyez quels sont les moyens qu'il est prêt à mettre en jeu. Non, on ne cherchera pas n'importe qui. Il faut aller chercher Balaam. Il y a une forte distance, mais allez les chercher. Ça va nous coûter, mais allez les chercher. Mais le verset 17 va plus loin. Écoutez ce que le verset 17 dit. Alors qu'il a Balaam devant lui, dit, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Prêt à rendre beaucoup d'honneur à quelqu'un pour faire disparaître quelqu'un d'autre. Et il va plus loin, il lui présente un chèque en blanc. Je ferai tout ce que tu me diras. Waouh. Une autre version dit, tout ce que tu me présenteras comme desiderata, j'y obéirai à la lettre. Mais simplement, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Prêt à tout, vous n'avez aucune idée du prix que les gens sont prêts à payer pour votre disparition. Un célèbre politique de l'époque disait, chaque homme a un prix, il faut le connaître. Si vous connaissez son prix, vous l'achetez. C'est pour cela, faites attention. N'ayez pas de faiblesse et n'ayez pas de faiblesse populaire. Quelqu'un dit, le diable, quand il va à la pêche, il utilise les appâts adaptés. Il y a des gens qui ont été appâts. Il y a des autres qui ont été appâts. Il y a des gens qui ont été appâts. Par vous préparer les morons à la boba tindi. Ah, vous n'avez aucune idée, certaines personnes qui tournent autour de nous ne sont pas là pour les raisons que nous croyons. Ah, Samson avait à ses côtés une femme qu'il appelait chérie. Mais ce que Samson ne savait pas, chérie était de connivence avec d'autres personnes. Seigneur, aide-moi à voir les discernements. J'ai prié une longue partie de cette nuit. J'ai dit, Seigneur, nos ennemis ne resteront plus cachés. Je prie que ce que les gens ont envoyé comme infiltré dans ton milieu, que Dieu puisse les faire démasquer. Ils laisseront tomber un petit mot. Ils enverront un texto par inadvertance, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Je le déclare comme l'ange de cette église, nos ennemis ne resteront plus cachés. Frères et sœurs, je vais les répéter comme je l'ai dit lors de la première séance, tout ce que nous voyons n'est pas ce qu'il y a. Le ciel peut être bleu, mais il y a une tempête qui se prépare. Quelques textes de la parole de Dieu nous le montrent. Dans Luc chapitre 22, verset 31, Jésus-Christ est en face d'un des disciples qu'il aime beaucoup, Pierre. Alors que Pierre vit comme si de rien n'était, Jésus-Christ a un lot d'informations que Pierre n'a pas. Il les a pas naturellement. Il dit à Pierre, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Simon, tu marches comme si de rien n'était, mais il y a eu une réunion qui a comme but objectif de te faire disparaître. Le diable t'a réclamé. Et Jésus-Christ utilise les termes qu'il faut pour te cribler comme du froment. Pas pour te caresser. Là où j'ai grandi à Bandal, à une certaine époque, il y a eu une invasion des gros cancres. Là, je ne sais pas, ils venaient d'où. J'ai en mémoire, ils ont trouvé trois des plus beaux costumes de mon père. Trois costumes qu'il aimait le plus. Un gros trou. Et puis un beau jour, nous avons papa entendu papa crier. Je l'ai vu. Il a crié à mon jeune frère, va me chercher le calibre 12. Parce qu'on a besoin d'un calibre 12 pour tuer un cancré là. Mais à cause des dégâts qu'il a eu à faire, on s'est dit, il ne faut pas les traiter mollement. Nous avons simplement entendu, ah! Monsieur Harry Bertin a réglé les comptes du cancré là. J'aimerais que tu saches, tes ennemis sont tellement contre toi. Tu leur as tellement fait des dégâts que quand s'ils peuvent t'avoir, ils n'utiliseront pas d'armes conventionnelles. Ils frapperont un grand coup. Ah, j'ai conscience que plusieurs qui ne le savent pas, ils sont réclamés. J'ai suivi cette cassette, j'étais une fois en Europe, un politique qui a travaillé dans notre pays a livré des secrets des choses qui se passent. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit, waouh. Il a dit, il y avait une marche avec un défilé d'un parti politique qui n'était pas autorisé à l'époque. Et l'un de leurs chefs a été cogné. Il s'est blessé sur la tête. Et à l'hôpital, on l'a amené. Le médecin qui l'a pris en charge, c'est que lui, il savait pas, il était en connivence avec ses. C'est ce monsieur qui parle, il dit, quand on m'appelle, il dit, à part le nom des codes, nous avons tel à notre disposition. Pouvons-nous faire ce que nous devons faire? Et il expliquera ce qu'ils devaient faire. Ils avaient à leur disposition un bocal de médicaments mercurochrome rouge, mais c'était, il y avait dedans le sang d'un sidéen. Donc apparemment, en essayant de soigner, c'est une maladie que l'on place. Ils savent que c'est une mort lente et douce. Il a dit, donne-moi quelques minutes, je vais appeler les boss. Quand il a appelé les boss a dit, n'osez pas les toucher. Nous n'avons aucune idée. Nous n'avons aucune idée. Un de mes cousins a failli un jour être empoisonné. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on avait eu à payer quelqu'un. Il a placé un poison dans son bureau, dans les climatiseurs. Rappelle-toi, tu ouvres. Tu respires l'air frais. Mais tu respires aussi la mort. Juste avant qu'il entre, quelqu'un l'a appelé. J'en parlerai tout à l'heure. Il a dit, n'ose pas entrer.
Demande à tel travailleur d'entrer, de rester 10 minutes. Tu verras sa réaction. Quand il est arrivé là, derrière ce travailleur, va. Allume le climatiseur. Reste. Il dit non. Vas-y, reste. Non. Et puis lui a dit, je te connais. Vous savez, quelquefois, quand vous découvrez votre ennemi, dites-le lui en face.
Dans Juges chapitre 16, verset 5, parlant de Samson, la Bible dit, les princes des Philistins montèrent vers Delila et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force. Ils disent pas sa force. Et même ils disent sa grande force. Et comment nous pouvons nous rendre maîtres de lui? Vous n'avez aucune idée. Tout ce qu'ils veulent, c'est rendre maître de vous. Vous dominez. Vous écrasez. Comment nous pouvons faire? Sixième chapitre des Juges, le cinquième verset. Comment nous pouvons faire pour nous rendre maître de lui? Et ils disent, nous les lierons pour les dompter. Dites avec moi, dompter. C'est ce qu'ils veulent. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Chacun était disposé à donner 1100 cycles d'argent. Et c'était 5 princes. C'est pas n'importe qui, les 5 princes qui dominaient. Dans les vues des Philistins, ils se sont retrouvés. J'aimerais dire à un Samson qui est ici, alors que toi tu vis normalement, les princes des Philistins se réunissent. C'est pas parce que tu ne les vois pas que rien ne se passe. Ils t'étudient, ils passent par où? Il va où? Il fait quoi? Il cherche la petite faille. Seigneur, qu'il n'y ait pas de faille. Nous donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Beaucoup d'argent de l'époque. Les salaires de plusieurs mois. Mais qui sont prêts à mettre à la disposition chacun d'une femme pour que quelqu'un soit détruit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 12 à 15, la Bible nous dit quelque chose concernant l'apôtre Paul. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, c'est-à-dire un projet secret, organisé, réfléchi par un groupe de gens contre une autre personne dans le but de nuire. Souvent nous pensons que parce que nous ne pouvons pas faire certaines choses, les autres aussi sont comme nous. Il y a des gens pour qui ça ne signifie rien. Prêt à dire, allez, faites-les disparaître. Éliminez des vies, ça leur dit rien du tout. Éliminez dans le monde spirituel, éliminez dans le monde physique, ça dit rien du tout. Un complot. Et écoutez ce que la Bible dit. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Le verset 13 ajoute qu'ils formaient, ceux qui formèrent ces complots étaient plus de 40. Des fois, nous n'avons aucune idée du nombre des gens qui nous en veulent. Aucune idée. J'en ai partagé avec les quelques responsables. Dernièrement, il y a, je pense, un mois et demi, j'ai dû aller en retraite. Vous savez, il y a des rêves que vous faites et vous savez que ça, c'est juste un rêve. Les gens, des rêves, tu sors de l'avenue de la science et puis tu es aux Champs-Élysées. Ou quand toi-même, tu te réveilles, tu sais que bon, ça, c'était qu'un rêve. Il y a des rêves, quand vous les faites, vous savez que ça, c'est Dieu qui a voulu parler. Dieu a voulu me montrer quelque chose. J'avais fait un rêve, je devais rentrer sur le boulevard Triomphal et j'arrive pas à expliquer. Et l'on m'a amené, on devait me placer là, au niveau de la tribune d'honneur. Il y avait 3 très belles chaises, on voulait me placer dans la chaise du milieu. Et juste quand j'ai voulu m'asseoir, j'ai dit non, je me mets à gauche. Ceux qui m'ont amené à insister, non, mets-toi là, j'ai dit non, ils ont voulu qu'on m'efforce, j'ai dit c'est moi qui décide. Et je me suis assis à la chaise de gauche. Et le défilé a commencé. 10 minutes après, cette chaise a explosé. Boum! Et j'ai entendu dans la masse les gens qui criaient aux huillés. Roland Dallo Akoufi. Et j'ai voulu qu'on m'élève pour détruire, c'est-à-dire, non, 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 je suis pas moi. Ceux qui étaient à mes côtés disent, ne dis rien. Et ils m'ont encadré. Et quand nous passions au milieu des gens, nous entendons les gens dire, ah, zui, Akoufi. Et moi, j'étais étonné. J'ai dit, ah, t'es belé, boubalingarangade. Parce que j'étais étonné par la joie de Azui, Azui. Et j'ai passé. J'essayais même de regarder certains visages. J'en ai reconnu certains de Philadelphie aussi. J'ai passé. comme pour te dire je te connais. Hein, c'est pas parce que je dis rien que je connais rien. Et ils m'ont dit, nous allons jusqu'à la RTNC à la radio et aller faire cette déclaration. Et quand je suis arrivé à la radio et à la télévision, j'ai déclaré que c'était la débandade. J'ai entendu certains dire, mais Boulobagiga Kouf, bonjour que ça salaire, ton père non. Bonjour que ça prime. Ceux qui vendent des complots contre nous ne pourront pas nous avoir. Je me suis réveillé cette nuit-là. J'ai su que quelque chose s'était passé. J'aimerais vous dire, Dieu parle aussi par les anges. L'abbé dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent, nous ne prenons point garde. Écoutez Dieu. Soyez alerte. Nous avons le Saint-Esprit. Joseph est resté en pleine nuit. L'abbé dit, un ange lui a apparu pour lui dire, prends l'enfant et pars en Égypte. Car Hérode a décidé de faire tuer l'enfant. Ah, quand vous êtes attaché à Dieu, il vous donnera les fuites d'informations. Quand on était au collège, on appelait ça les battes. Bat-toi là. On te donne les questionnaires avant l'examen. Ah, j'aimerais vous dire, si vous êtes attaché à Dieu, vous saurez des choses, même pas par des canaux humains. Et quelquefois, quand Dieu ne vous dira rien, il fera des choses. Vous voulez aller seulement au rendez-vous, vous sentez la lourdeur. Vous voulez démarrer le véhicule, ça ne démarre pas. Vous dites, je reste et vous apprendrez ce qui s'est passé de l'autre côté. J'aimerais dire à quelqu'un, sois sensible à Dieu. Ils étaient plus de 40. Et la Bible dit, ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes. Waouh! On n'a rien mangé jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Écoutez le verset 15. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrin au tribun pour qu'il amène devant vous, comme si vous voulez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous serons prêts à les tuer. Donc, ils montent même un scénario. Ils font participer des gens à quelque chose d'officiel, mais ils savent ce qu'il y a derrière. Ah, mais quand nous sommes attachés à Dieu, rien ne va nous arriver. C'est pour cela que j'aime particulièrement les mêmes chapitres des Actes 23, mais plutôt le verset 16. J'aime ce que le verset 16 dit. Les fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, allant dans la forteresse, en informaient Paul. Qu'est-ce qui a fait qu'elle soit là? Pourquoi seulement les fils de la sœur de Paul? Quand Dieu vous aime, il placera l'homme qu'il faut, au moment où il faut, à la place qu'il faut, pour le but qu'il faut. Des fois, la vie, ça tient à de petites choses. Elle n'aurait pas été là, Paul aurait été surpris. La sœur, le fils de la sœur de Paul était là et il a entendu et il n'a rien dit. Il s'est simplement éclipsé. Noko Paul. Keba. Mais ce n'est pas la première fois qu'une telle chose arrive à Paul. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 23 à 24, Paul vient à peine de se convertir et il devient un danger pour ceux avec qui il travaillait autrefois. Écoutez ce que la Bible dit. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent. Une autre version dit, se rencontrèrent et se mirent d'accord pour tuer Paul. Ah, mais j'aime la suite. Le verset 24 dit, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. Comment? Nous ne savons pas, mais il y a eu une fuite. Et la Bible dit, on gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Tout est encerclé. J'aime le verset 25. Mais pendant la nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille dans une corbeille. Les champions de Dieu, par une corbeille. Le plus important, c'est d'échapper, quels que soient les moyens. Mais ce que j'aime, c'est que Paul n'a pas été surpris. Dans Néhémie chapitre 4, versets 11 à 12 et verset 15, la Bible nous montre que les rébâtisseurs, Néhémie, avait connu la même situation. Et il dit, écoutez ce qu'il dit. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons. Nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ah, j'aime le verset 12. Or, les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. Des gens bien intentionnés. Ils sont simplement venus dire, faites attention. Mais écoutez ce que le verset 15 dit. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, car nous les serons toujours, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. J'aimerais m'arrêter un moment là pour faire deux déclarations. tiré, basé sur la parole de Dieu. Dans Psaume 89, au verset 21, au verset 24, parmi les promesses que Jéhovah fait à l'homme qu'il choisit et avec qui il est en alliance, il déclare ceci. J'ai trouvé David, mon serviteur. Mon serviteur veut dire celui qui se soumet à moi, celui qui est prêt à faire ma volonté. Seigneur, donne-moi des hommes qui sont prêts à te soumettre à toi. Il est dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main les soutiendra. Une autre version dit, ma main lui apportera de l'aide, des munitions. Et mon bras les fortifiera. Mais j'aime surtout le verset 23. Et l'ennemi ne les surprendra point. L'ennemi ne les prendra pas par défaut. J'aimerais vous dire, quand vous êtes attaché à Dieu, l'ennemi ne peut jamais vous surprendre. L'ennemi ne peut jamais vous prendre en défaut. Non pas que vous êtes omniscient, non pas que, mais Dieu s'arrangera. L'ennemi ne le surprendra point et le méchant ne l'opprimera point. Et j'aime le verset 4 et Dieu dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ceux qui te haïssent, c'est qualifié à être frappé par Dieu. Que des hommes prennent le risque de combattre quelqu'un qui est en alliance avec le plus fort. Quand les gens ont voulu attaquer et faire du mal à ceux de l'église primitive, Gamaliel s'est levé et leur a dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Il voulait leur dire, vous voyez ces hommes, vous ne savez pas qui est derrière. Ah, je prie que celui qui est derrière nous se manifeste. Le temps est venu que l'on dise, que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache aussi que je suis ton serviteur. J'aimerais déclarer, on ne te surprendra pas. J'aimerais le déclarer encore, on ne te surprendra pas. J'aimerais le redire encore, on ne te surprendra pas. J'aimerais le redire encore avec foi et conviction. Ceux de Philadelphie ne seront jamais l'objet d'une surprise. On ne te surprendra pas. Déclare-le en tapant sur la poitrine. On ne me surprendra pas. Dis-le encore, on ne me surprendra pas. Ma deuxième déclaration que je me réfère, basée de 1 Samuel 23, 27 à 28, la Bible nous relate la manière dont miraculeusement David a été l'objet d'un sauvetage. Il était attaqué par Saül. Les armées de Saül l'ont entouré. David lui-même voit que c'est fini. Entouré de tous côtés. Mais j'aimerais dire, avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. J'aimerais te le dire, dans ta vie, quelle que soit l'adversité que tu as en face de toi, tes ennemis, malgré leur force, malgré tout ce qu'ils ont comme aptitude, ils n'auront droit qu'à l'avant-dernier mot. Car le dernier mot revient à Dieu. J'aimerais te le redire, le dernier mot dans ta vie revient à Dieu. J'aimerais te le redire encore, le dernier mot dans ta vie revient à Dieu. David croit que c'est fini. Mais écoutez ce que la Bible dit. Un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et retourna pour aller à la rencontre des Philistins. David pense que c'est fini. Il est entouré. Les maîtres deviennent des centimètres. Il voit les armées des Philistins et de Saül s'avancer. Lui-même dit, c'est fini. Et puis subitement, il voit, il s'arrête, il ne progresse plus. Et il voit même au lieu de progresser, il commence à reculer. Il se demande, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est arrangé pour mettre la confusion. Pourquoi les Philistins viennent attaquer seulement en ce moment-là? J'aimerais te dire, le plus important, c'est être en alliance avec Dieu. Le plus important, c'est être en alliance avec Dieu. Dans ma vie, j'ai connu des moments de suspense où j'avais l'impression que j'étais dos contre le mur, où j'attendais le coup fatal, mais qui n'est jamais arrivé. J'aimerais crier comme les psalmistes, « Mes destinées sont entre ses mains !» Mes destinées sont entre ses mains. Quelle que soit leur activité, mes destinées sont entre ses mains. Esaïe dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. C'est pas que l'arme cesse d'être arme. Mais dès l'instant, derrière cette arme, il y a l'intention de vous détruire. Dieu enlève la capacité. « Ah, j'ai suivi lors des temps de réconciliation qu'il y avait en Afrique du Sud. Un monsieur passait et il a dit, si Dieu tient la vie d'un homme, rien ni personne ne peut arrêter cela. Et cet homme a relaté deux extraits. Il a dit, un jour, nous devions aller quelque part faire un guet-apens. Mandela devait sortir d'un endroit pour un autre et on nous avait dit qu'il y aurait un véhicule rouge. Il serait dans un véhicule rouge et vous provoquerez un faux accident. Et nous sommes arrivés à cet endroit, on nous a dit, il vient de quitter dans 2-3 minutes, ils vont passer par là. Et un véhicule rouge est passé. Ils ont provoqué les faux accidents, mais ils sont allés voir rien. Pourquoi? Parce qu'en cours de route, un autre véhicule rouge avait dépassé le véhicule rouge de Mandela. Dieu est un stratège. Quand Dieu tient à vous, rien ne peut vous arriver. Rien. 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 Un autre relate, il dit, on nous avait envoyé simplement pour aller mettre une sorte de lampe dans la chambre de Mandela. Si on la met, quand il va commencer à respirer, ça va détruire ses poumons. Mais juste avant qu'il aille, il devait aller à deux, on l'a appelé pour lui dire, ton ami là, il est allé avec ta copine. Et les deux, avant d'aller, se sont battus terriblement. Et la mission n'a pas été faite. J'aimerais te le dire en lingala, Obanga Kanini. Dis à ton voisin, Obanga Kanini. Mais j'aimerais aussi te dire, même quand tu trembles, Dieu est derrière toi. Je me souviens de ce jeune homme avec qui je parlais un jour au bureau. Il devait aller affronter quelque chose. Et il tremblait tellement. Je lui demande, tu trembles? Il dit, je ne tremble pas. Donc le tremblement atteint jusqu'à la langue, mais il dit, je ne tremble pas. Mais j'aimerais te dire, malgré tes tremblements, Dieu est avec toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Déclare-les encore. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ah, je termine ce matin avant que nous puissions passer un moment de déclaration. Troisième chose que ces textes nous apprennent, l'incapacité de nos ennemis à nous vaincre malgré notre inconscience. L'incapacité de nos ennemis à nous vaincre malgré notre inconscience. Dans les combats spirituels, il y a quelquefois l'aspect offensif, il y a quelquefois l'aspect défensif. Mais quelquefois, nous sommes vainqueurs sans que nous sachions que nous sommes en train de nous battre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut travailler pour toi sans toi. J'aimerais le répéter encore, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Tu n'es pas si indispensable pour ta protection. Vous savez, à un moment de ma vie, j'en avais assez. Trop de messages. Oh, pasteur, tout le monde va empoisonner. Pasteur, comme la maïté. Pasteur, ce côté, que ben amico. Il y a un amico, na yomoko. Trop de ne fais pas, ne fais pas. Je leur ai dit le peu que je connais. C'est bon, il faut prendre des précautions. Il y a un certain niveau de choses que l'on ne sait pas faire. Je parlais avec quelqu'un qui était dans un milieu. Il a dit, nous avons utilisé un domestique qui a mis des choses dans les habits. En repassant, il met. Yo, la tigrabo. Poutoulou. Mais dans le poutoulou, il y a la mort. Alors pour dire que quelquefois, nous ne pouvons rien faire. Mais j'aimerais dire, là, nous ne pouvons rien faire. Dieu peut faire quelque chose pour nous. L'incapacité de nos ennemis à nous vaincre. Nombre 22, 1 à 2, nous parle des actes incantatoires posés par Balaam. Bâtis-moi ici cet autel. Prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Ils étaient là un peu comme les gens d'une certaine réunion. Ils chantaient « Bossalanga Noé, yo !» Incantation. Pourquoi vous avez réagi en retard? Ils ont mis tous les béliers, ils ont offert tous les sacrifices. Et quand Balaam ouvre la bouche, écoutez ce qu'il dit. Le roi de Moab m'a fait descendre des mains. Il rappelle la mission. Il a dit, viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Mais écoutez le verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand Dieu n'est point irrité? J'aime le verset 9. Il dit, j'ai les voix du sommet des rochers. Seigneur, aide-les à voir où je suis réellement. Il dit, je les contemple du haut des collines. Et dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Dans les radars des hommes, ils ne nous verront pas. Dans leur GPS, ils n'arriveront pas à nous localiser. Dis avec moi, j'ai un lieu à part. Et j'aime ce qu'il ajoute. Ce peuple ne fait point partie des nations. Et j'aime la réaction de Balak au verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu l'es béni. Verset 12, il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Mais le verset 13 nous montre l'entêtement de Balak. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu les verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les. Quand il ouvre encore la bouche, au lieu de la malédiction, écoutez ce que la Fauchelevent du verset 22 au verset 24 dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Et c'est même à relater les palmarès du peuple d'Israël. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buff. Waouh! Nos ennemis savent qu'est-ce que nous avons. J'aime le verset 23. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Mais il est encore entêté. Le verset 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Mais j'aime surtout la manière dont, non seulement Balak s'entête, mais la manière dont Dieu travaille avec cet homme. J'aimerais lire, et nous avons terminé, du verset 3 au verset 11 du chapitre 24. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent, et il se met à louer. Écoutez ce qu'il dit, qu'elles sont belles. Tes tentes, ô Jacob, il devient même poète. Qu'elles sont belles, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Le coule de ses eaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Écoutez le verset 10. Et la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà trois fois. J'aime le verset 11. Fouille maintenant. Va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Et ce que j'aime dans ces récits, c'est qu'alors que tout ceci est en train de se passer, Israël est en train de ronfler dans ses tentes. Ils ne savent rien. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne savent rien et rien ne se passe. Dieu est pour nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre de tout danger. Pour que nous puissions être bénéficiaires de ces choses, nous en parlerons le dimanche prochain. Il y a trois choses à faire. Il y a être quelque chose, avoir quelque chose et savoir quelque chose. Pour bénéficier de ces choses, il faut d'abord être quelque chose, savoir quelque chose et avoir quelque chose. Ça, nous en parlerons dimanche prochain. Tout est d'abord dans être. Si vous êtes, vous êtes vainqueur sans combattre. Si vous êtes, Dieu peut écraser vos ennemis sans que vous puissiez participer. Le plus important, c'est simplement être. Êtes-vous alors, je me pose la question ce matin, êtes-vous en alliance avec Dieu? Alors, vous êtes un allant à l'église. Vous êtes quelqu'un qui est passé par les sacrements. Êtes-vous en alliance avec Dieu? J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes. Je vais lancer un appel, un seul, et puis nous allons prier. Cet appel que j'aimerais lancer, quelqu'un qui est ici, qui a conscience, qui a combat physiquement, combat spirituellement, combat dans quelques domaines, dans quelques aspects. Mais tu te rends compte que tu veux vivre ce qu'Israël avait vécu. Tu veux comme Israël avoir la victoire, être l'objet de la protection, quelle que soit la quantité et la qualité des ennemis, quels que soient les devins que l'on va chercher. Mais je dis, tout part d'abord par une alliance. Es-tu en alliance avec Dieu? Et être en alliance avec Dieu, c'est pas aller à l'église, c'est pas passer par quelques sacrements. C'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est simplement l'inviter dans sa vie. Dire, Jésus, je te donne la direction de ma vie. C'est dans la mesure où tu lui donnes la direction et tu peux être bénéficiaire de ces choses. Et tu peux l'être même inconsciemment. Y a-t-il quelqu'un qui veut être quelque chose ce dimanche? Je viens à l'église, mais je veux m'attacher à Dieu. Il y a un homme qui est passé par un grand désert. Il y a une année, il s'est posé des questions. Rien de bon ne réussissait. Mais depuis quelques mois, Dieu a ouvert des portes. L'Esprit de Dieu est en train de me mettre à cœur de te dire, attache-toi à Dieu comme jamais avant. Car certains ont décidé d'arrêter cette phase dans laquelle tu es en train de passer. La seule manière de la prolonger et de la faire perdurer, c'est faire alliance avec Dieu. Tu as des gens avec qui tu as à côté qui rigolent, mais qui ne t'aiment pas. Je vois même sur une liste, on a enlevé ton... Et c'est revenu, Dieu me dit, c'est revenu à cause de ta femme. À cause des genoux qu'elle met par terre. Mais ce matin, tu peux quitter d'être l'objet de la protection à cause de ta femme pour que cela soit à cause de toi-même. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, pasteur, prie avec moi. Je veux être l'objet de cette protection, mais je fais alliance avec Dieu. Si tel est votre désir, je vous demanderai de vous lever là où vous êtes. Je prierai pour vous et avec vous. Le deuxième appel que je me relance rapidement, il y a des hommes et des femmes qui connaissent des combats, des luttes. Vous avez conscience, soit on vous l'a rapporté, soit vous les savez, soit vous les sentez. Et vous voulez dire, prédicateur, priez pour moi, priez avec moi. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous êtes conscient qu'il y a des combats. Comme pour Paul, il y a des complots. Comme pour Israël, il y a des gens qui s'élèvent contre vous. Et dans ces combats, des fois, vous avez conscience que vous n'avez pas les mêmes atouts. Vous n'avez pas les mêmes atouts. Humainement parlant, ils en ont plus. Et vous voulez dire, je n'ai que Dieu. J'aimerais vous dire, quand vous n'avez que Dieu, vous avez l'essentiel. Mon pasteur, le pasteur Vernon disait, un homme avec Dieu est une majorité. Si vous êtes dans ces cas aussi, levez-vous. J'aimerais que vous nous chantiez un cantique des confessions, des déclarations de la victoire. Faisons partie de l'équipe du vainqueur. Et pendant que nous serons en train de chanter, avant qu'on prie pour ceux qui se sont levés en premier, Dieu me met à cœur que toi qui t'es levé en deuxième, commence à déclarer. Lors de la quatrième séance, nous parlerons des prières d'imprécation que nous trouvons dans la parole de Dieu. La cinquième séance, nous parlerons de la louange et le combat spirituel. Car le psalmiste dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Mais la Bible déclare aussi, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi de la parole de leur témoignage. Les prophètes a dit que les faibles disent je suis fort. Les psalmistes a dit je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Commence à déclarer, celui qui va m'attaquer s'attaque à Dieu. Mes ennemis tomberont à mes côtés. Commence à les déclarer alors que la chorale nous aide à chanter. Mais toi mon roi,
toi mon bouclier,
Dieu ma gloire,
Dieu ma gloire, tu relèves.
Oh, mais toi mon roi,
toi mon bouclier,
Dieu ma gloire,
Dieu ma gloire, tu relèves.
Oh, mais toi mon roi.
Le juste Dieu.
Commence à le déclarer. L'enchantement ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre moi. Quand l'on formera des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Toute l'âme qui s'élèvera contre moi, je la condamnerai. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Tel est l'héritage des saints. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Mes ennemis viendront par un chemin. Ils vont s'enfuir par sept. J'aimerais que toi et moi on élève les mains. J'aimerais que toi et moi nous puissions déclarer la confusion dans les camps de nos ennemis. La confusion. Déclarons-le. La confusion dans les camps de ceux qui m'en veulent. Détruis anticipativement les projets des hommes contre toi. Désamorce les bombes.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.